Je passe tout de suite à la présentation de notre conférencier ce soir. Il s'agit de François Bonhomme, qui est né en 1954 à Paris, spécialiste de génétique de la spéciation, évolutionniste, qui est à l'Université de Montpellier. Il est docteur en sciences. Il a fait un doctorat en sciences en 84, approche moléculaire de l'évolution d'un complexe d'espèces. Il est devenu directeur de recherche au CNRS à partir de 1989. Il est le fondateur et le directeur du laboratoire Génome, Population, Interaction, CNRS, Université de Montpellier 2, depuis 1992, et directeur de la station de biologie marine de l'Université de Montpellier à 7, depuis 1999. Il est spécialiste de génétique moléculaire des populations appliquée aux rongeurs et aux espèces marines. Ses travaux ont porté sur l'application des techniques de la biologie moléculaire aux problématiques de la systématique, de l'évolution et de la génétique des populations, ainsi que sur l'évolution génétique associée au phénomène de spéciation, notamment chez les souris sauvages. Il a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées, nationales et internationales, et est membre de nombreux comités de lecture de revues savantes. Il est membre aussi du comité de lecture de la revue Evolution. Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs. Il a reçu en 1996 la médaille d'argent du CNRS pour ses travaux d'évolution moléculaire chez la souris. Donc il va nous parler de traiter son sujet pendant une cinquantaine de minutes et ensuite de quoi il répondra à vos questions. Merci.
Merci et bonsoir. Donc, tout d'abord, je m'excuse. Il n'y a pas de réponse à la question que je vais traiter ce soir. Donc, si vous attendez à ce que je vous donne une réponse, ce n'est pas la peine. Ne soyez pas déçus. Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et cette façon de poser les choses sous forme de questions, c'est histoire d'avoir un aimable discours. Mais la réalité est tellement complexe et multiforme que ça serait bien trop simple si on pouvait répondre de manière univoque à cette question. Bon, en effet, pour le grand public, c'est-à-dire pour vous, pour moi, pour nous, nous sommes tous convaincus que les espèces se sont succédées à la surface de la Terre, que les dinosaures ont laissé la place aux mammifères, qu'à l'intérieur de ceux-ci, une diversification énorme s'est produite et que finalement, certains primates, éventuellement, sont devenus des bipèdes plus ou moins bien pensants. Enfin, tout ça, ça fait partie du petit fond commun que tout le monde a appris à l'école. Et simplement, une chose en général à laquelle on est bien embarrassé de pouvoir répondre, c'est la question suivante. À quelle vitesse ces phénomènes se produisent-ils? À quelle vitesse des espèces nouvelles apparaissent? Et ça reste en général une énigme et on serait bien embarrassé d'y répondre comme ça sur le champ. Alors, d'abord, pour répondre à cette question, on me dira qu'il faudrait avoir une bonne définition de l'espèce. Et beaucoup d'entre vous doivent savoir que les gens se disputent et se crêpent le chignon depuis Darwin et même avant pour savoir exactement ce que c'est qu'une espèce. Et moi, je répondrais que pour le moment, restons-en à l'idée qu'on s'en fait en général et de cette idée moyenne, courante, de ce qu'est une espèce suffit largement d'ailleurs à appréhender le problème qui se pose de manière aiguë à l'heure actuelle face aux problèmes d'érosion rapide de la biodiversité à la surface de la planète. Et en effet, il n'y a pas besoin d'avoir une définition très sophistiquée de l'espèce pour comprendre ce que ça signifie quand on vous dit que le tigre d'Asie ou la baleine à bosse vont disparaître dans 15 ou 20 ans. Vous comprenez ce que ça veut dire. On peut poser cette question, nous verrons après comment la raffiner. Donc si on voit bien ce que c'est que la disparition d'une espèce, et si ça ne fait de mystère aux yeux de personne, par contre, l'apparition, la réapparition, la recréation de catégories équivalentes au niveau des catégories de biodiversité équivalentes, c'est une autre histoire. Combien de temps faudrait-il pour que ce qui a disparu réapparaissent à un niveau de complexité équivalent, voilà une vraie question. Nous allons tenter d'y apporter quelques éléments de réponse. En essayant de faire que ça ne soit pas trop des réponses de Normand, mais vous verrez, il faut avoir beaucoup d'humilité et reconnaître que les choses ne sont pas aussi pures et cristallines que les atomes d'un minéral et que la réalité est bien complexe. Alors, je vais donc ratisser un peu large dans mon introduction pour arriver au domaine plus particulier qui est le mien, qui est celui des aspects génétiques associés à la création de nouvelles espèces, mais il faut bien commencer par situer ça dans un contexte plus large. Donc, revenons à nos moutons. La première constatation est que la chose la plus probable qui puisse arriver à une espèce est de s'éteindre. Effectivement, l'histoire de la Terre est maintenant suffisamment bien connue pour que... Alors, comment ça marche, cette chose ? Miracle de la technique, pour qu'on ait pu enregistrer plusieurs grandes crises d'extinction, dont 5 au total, marquées par les flèches rouges, là. La plus connue, la plus médiatisée d'entre elles, c'est la crise Crétacé-Tertiaire qui a vu, entre autres, la disparition des dinosaures. Mais il y a eu bien d'autres épisodes, et en particulier, le plus sévère d'entre eux, en termes de nombre d'espèces, de genres et de familles qui ont disparu, c'est celle-ci qui, entre le Permien et le Trias, c'est-à-dire donc à la frontière du primaire et du secondaire, et donc une succession d'extinctions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les espèces disparaissent même en dehors des crises d'extinction. En fait, c'est un processus continu, et il y a en permanence des espèces qui disparaissent. Alors, comme c'est un fait d'observation que la vie n'a pas encore entièrement disparu sur Terre, si donc des espèces disparaissent, il doit bien y en avoir qui apparaissent. Et on peut voir les assemblages d'espèces comme des choses qui sont loin d'être figées, mais bien au contraire, en permanence modifiées par un espèce de tapis roulant d'apparition et de disparition qui s'accélère à certains moments particuliers de l'histoire de la Terre. Nous sommes en train de vivre le sixième. Alors, si on se figure, comme je le disais, assez bien la chronologie d'une disparition, la génération spontanée est depuis longtemps rangée au rayon des accessoires, en tout cas de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est pas forcément vrai de l'autre côté. Et on a plus de mal à voir effectivement comment des nouvelles espèces vont apparaître. Pourtant, elles le font, et elles le font en permanence et avec plus de rapidité dans certains groupes que dans d'autres. Sur ce graphique, on voit représenter ce qui est arrivé pendant les 20 dernières millions d'années, en gros, à 4 familles de rongeurs. Et certaines d'entre elles, comme par exemple les murinés, là-haut, c'est-à-dire la famille du rat et de la souris, des rongeurs qui ressemblent à ça. Ben, je le vois ici aussi. Donc ça, bon. En gros, on produit 500 espèces actuellement vivantes en environ 20 millions d'années. Donc ça fait quand même un petit paquet, sans compter celles qui ont été produites et qui ont disparu. Et puis, vous voyez que la famille des Chrysetominés, elle, se contente de même pas 10 pour le même laps de temps. Les espèces sont créées, mais nous savons déjà que les réponses vont être extrêmement différentes en fonction des groupes d'organismes. Alors, dans la façon simpliste dont est posée la question que j'ai choisie comme titre de cette conférence, « Combien de temps pour faire une espèce ?», il se cache en fait deux aspects bien différents. Alors, pour employer des termes classiques, il y a celui de l'anagénèse, c'est-à-dire l'évolution du phénotype, l'apparition de formes nouvelles. Bon, en gros, si on reformulait la question sous l'angle de l'anagénèse, on pourrait dire Si tout ce qui ressemble, par exemple, à une baleine venait à disparaître, combien de temps faudrait-il pour qu'une catégorie équivalente occupant à peu près la même niche écologique se recrée ? Et puis l'autre aspect de la question, c'est celui de la cladogenèse, c'est-à-dire l'apparition de lignées distinctes et non interfécondes. On pourra reformuler la question, en gros, combien de temps faut-il pour qu'une espèce se fragmente en deux espèces filles distinctes, pouvant éventuellement, lorsqu'elles se rencontrent, être interstériles. Donc, derrière la question se cachent deux aspects, celui donc, de l'anagénèse et de la cladogénèse. Et moi, je suis un spécialiste de la cladogénèse, pas de l'anagénèse, mais je vais quand même vous dire quelques mots du contexte dans lequel évolue justement, pour faire simple, hein, on va dire, la forme des espèces ou, disons, leur apparence par rapport au milieu extérieur. Donc, de l'anagénèse, j'en dirai rien sur les mécanismes, sinon que son étude a été jusqu'à présent presque uniquement le domaine réservé des paléontologues et pour cause, parce qu'en général, l'anagénèse est un phénomène relativement lent qu'on peut observer lorsqu'on dispose de séries fossiles bien étagées dans le temps. Alors parmi les grands classiques de ça, dans tous les livres de sciences naturelles, on ressort la série des ancêtres du cheval, etc. Plus récemment, il y a eu des choses publiées sur, et trouvées d'ailleurs fort intéressantes sur la lignée des cétacés, donc conduisant aux baleines. Et on voit sur ces photos qu'en environ 15 millions d'années, on est passé de quelque chose d'assez petit qui courait sur les bords d'un marécage ou sur une grève, à quelque chose ici d'un peu plus grand qui ressemble typiquement à un dauphin actuel. Et puis après, dans les 40 derniers millions d'années, eh bien, ça donnait ce qu'on connaît des cétacés actuels. Donc voilà un exemple d'anagénèse, une série, et le temps qu'il a fallu pour avoir quelque chose de significatif. Bon, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une réponse unique. Et d'ailleurs, ça serait plus simple pour moi, mais je suis obligé de reconnaître que dans le vaste monde, on peut trouver tout et son contraire. Et il existe, à l'inverse, des phylums ou des espèces qui ont fait preuve de remarquables stades évolutives. Ce sont les fameux fossiles vivants dont tout le monde a entendu parler parce que c'est en général très, très médiatisé. Alors, par exemple, chez les arthropodes, il y a les limules, qui existent depuis le primaire. Donc voici une limule actuelle et une limule fossile du Jurassique et actuelle. Elles n'ont quasiment pas changé de forme, mais il existe plein d'exemples, aussi bien chez les végétaux que chez les animaux, chez les insectes, les scorpions, les fougères, les gymnospermes, etc., de phylums où certaines formes apparaissent comme particulièrement conservées, tant et si bien qu'on pourrait fort bien avoir l'impression que la nature n'est pas très inventive une fois qu'elle a inventé quelque chose qui marche. Bon, on peut avoir l'impression inverse, bien entendu, et une remarque quand même s'impose, c'est que cette apparente stase morphologique n'implique en rien une stase évolutive et que les organismes restent identiques, si j'ose dire, de l'intérieur. Ils continuent à subir des pressions adaptatives en permanence pour ajuster leur physiologie, leur système immunitaire, leur comportement, leur croissance, etc., leur sexualité aux besoins du moment. Leurs gènes mutent, évoluent, et il est clair que si on prenait une limule actuelle et qu'on la mettait dans le même environnement qu'une limule jurassique et réciproquement, on serait bien en peine de dire qui va gagner. Bon, mais la nature, si elle sait ne pas être très inventive, elle peut aussi dérouter notre goût de la généralisation pour le grand dam du conférencier, en nous présentant à l'inverse des cas d'adaptation relativement rapides qui ont entraîné une évolution morphologique spectaculaire. Alors, je n'ai pas d'illustration, mais je vous laisse deviner. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur le cas des populations insulaires, notamment le nanisme et le gigantisme insulaire. On note effectivement, à partir du moment où les espèces s'enferment dans une île et que donc les conditions de leur survie changent de manière draconienne, des évolutions morphologiques très rapides. Notamment, il y a le célèbre cas de l'éléphant nain de Sicile, 50 cm au garrot. C'est spectaculaire. On connaît aussi des cas où, en quelques milliers d'années, on peut obtenir une population aux individus trois fois plus grands ou adaptés à des conditions physiologiques complètement différentes de celles des populations mères. Alors, en fait, il y a un exemple assez spectaculaire qui est celui de l'ours polaire. Voici sur une phylogénie récente des ours bruns européens, américains et asiatiques. Et donc, c'est une phylogénie moléculaire. On a comparé la divergence moléculaire de tous ces ours et avec, je me trompe, le pointeur, avec ici une échelle de temps. Et vous voyez qu'ici, il y a un petit clade 2B, là, noir, j'ai marqué en noir, qui correspond à ce qu'il est convenu d'appeler l'espèce ours polaire, qui est entièrement inclus dans la généalogie de la famille des ours américains et asiatiques. Le temps de divergence entre ce petit fragment d'ours et les autres, c'est probablement de l'ordre de 50 000 à 100 000 ans. Donc, vous voyez que pour pour l'observateur superficiel, l'ours polaire est vraiment quelque chose d'à part, mais en fait, il n'est pas très vieux et il est inclus à l'intérieur de la grande famille des ours pas polaires. On voit que l'apparition de la nouveauté évolutive quant au phénotype externe, si je peux m'autoriser ce pléonasme, est quelque chose qui se produit à une vitesse apparemment extrêmement variable d'un groupe à l'autre et que visiblement, il n'y a pas de règle. Alors, on sait simplement qu'il faudra plus de temps pour faire d'un espèce de petit animal qui court au bord de l'eau d'en faire une baleine, que pour d'un éléphant de taille normale faire un éléphant nain. On comprend bien que ça prendra moins de temps, mais bon. Alors, ça, c'était un peu les paléontologues. Plus récemment, les néontologistes, c'est-à-dire, entendez par là, ceux parmi les biologistes qui travaillent sur des espèces encore vivantes, ont cherché à quantifier, en quelque sorte, les possibles du changement évolutif en comparant des populations distinctes d'âge de divergence connues ou à l'intérieur de la même espèce ou des populations qui venaient d'être introduites dans un nouvel environnement depuis un certain nombre de générations. Et on a commencé à pouvoir mesurer des vitesses d'évolution morphologique. C'est le cas, par exemple, de petits poissons marins côtiers, les épinoches, qui sont capables aussi de coloniser des lacs. On a des expériences de colonisation datées dans lesquelles on peut mesurer une vitesse d'évolution morphologique qui se produit assez rapidement. On a même maintenant de plus en plus d'études qui quantifient ces taux d'évolution morphologique ou adaptatif sur certains traits d'histoire de vie. Et en général, toutes ces études sur du matériel récent montrent que la possibilité d'évolution, donc le potentiel évolutif tel qu'il est réalisé sur 100, 200 ou 300 générations, est en général beaucoup plus fort, est énorme par rapport à ce qui est réalisé sur des grandes séries de temps. Donc, en quelque sorte, on n'est pas vraiment limité au long terme sur la quantité d'évolution qui peut se produire parce qu'il y a sûrement un réservoir de variabilité génétique sélectionnable extrêmement fort extrêmement fort dans oui, extrêmement fort dans, dans les espèces. Alors, ces estimations sur, les divergences récentes confirment finalement les indications empiriques qui ont été fournies par 5000 années de sélection de plantes et d'animaux domestiques depuis la néolithisation, qui montrent à quel point, quand on relâche ce qu'il est convenu d'appeler la sélection naturelle, c'est-à-dire le libre jeu de la concurrence des individus au profit d'une sélection artificielle, c'est-à-dire quand c'est l'homme qui décide qui doit survivre, eh bien, on obtient des choses assez spectaculaires. Alors, pour illustrer cela, il n'y a qu'à comparer un chihuahua et un Saint-Bernard pour s'apercevoir que le Saint-Bernard est finalement beaucoup plus petit que le chihuahua. Non, c'est pour s'apercevoir qu'à l'intérieur de la même espèce, on peut obtenir des choses extrêmement différentes. Alors, ce petit exemple, réfléchissons-y, si d'aventure on remettait ces animaux dans la nature sans l'intervention de l'homme, qu'est-ce qui se passerait? Bon, très probablement, ils disparaîtraient. Mais si, quand même, ils pouvaient survivre dans un milieu assez protégé, on pourrait très bien penser que les pressions de sélection s'exerçant sur le chihuahua seraient pour le rendre plus grand, et les pressions de sélection s'exerçant sur le Saint-Bernard seraient pour le rendre plus rapide et moins lourd, et que, finalement, eh bien, on finirait par peut-être arriver à quelque chose comme ça. Ça, c'est le dingo d'Australie, qui est bien un descendant de chien domestiqué qui s'est réensauvagé et dont vous voyez qu'il ressemble finalement assez fort à un loup. Donc, bon, voilà pour l'anagenèse, mais pour la cladogenèse, on peut même aller plus loin et dire que ces différents avatars de la descendance hypothétique de nos deux races de chiens, eh bien, ils seraient probablement toujours interféconds. Donc, s'ils survivaient et s'ils venaient à se rencontrer, ils se croiseraient et on n'aurait toujours pas créé d'espèces nouvelles. Alors, donc on va bientôt rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que les espèces nouvelles se créent et à quel rythme. Alors, donc, si il est apparemment facile de changer en s'adaptant, c'est le cas de l'ours polaire, ou de s'adapter en ne changeant pas, c'est le cas de la limule, comment se fait-il que, en dehors des grandes extinctions, et de manière continue, beaucoup d'espèces disparaissent. Alors là, il faudrait faire tout un cours d'écologie, ce qui n'est ni mes compétences, ni mon propos ce soir, pour discuter des mécanismes qui font qu'à un moment donné, une espèce est tellement mal adaptée qu'elle disparaît. Je ne parle pas des grandes extinctions, des météorites, etc. Je parle des choses qui se produisent sur le long terme. Le seul message que je veux faire passer, c'est que bien souvent, cette maladaptation conduisant à l'extinction va résulter de pressions de sélection contradictoires. Parce que, en effet, entre les différents caractères qui assurent l'adaptation d'une espèce à son environnement, il peut y avoir des corrélations négatives et vous ne pouvez pas améliorer l'un sans détériorer l'autre, etc. Ce qui fait que ces pressions contradictoires peuvent arriver à ce que des espèces soient enfermées dans des niches de plus en plus spécialisées, avec des adaptations de plus en plus particulières qui les fragilisent. L'idée qu'il faut retenir, c'est cette idée de pression contradictoire. Et un cas particulier de ces pressions de sélection contradictoire qui mérite qu'on s'y arrête un peu, est celui de la sélection sexuelle, telle que proposée par Darwin en 1871. Alors, on entend par sélection sexuelle des pressions de sélection exercées sur l'un et l'autre sexe, chaque individu étant en compétition avec les individus du même sexe que lui pour l'accès aux partenaires de l'autre sexe, pour obtenir les meilleurs partenaires ou des partenaires plus nombreux, etc. Il y a de nombreux exemples que cette chose-là se produit. Darwin l'avait reconnu très tôt. Et il considérait que c'était une sorte de sélection qui n'était pas naturelle, c'est-à-dire pas vraiment adaptative, Et donc il parlait de sélection naturelle et de sélection sexuelle, et considérait la sélection sexuelle comme moins exigeante. Bon, en fait, elle l'est peut-être au moins autant. Et ce type de sélection est notamment à l'origine des caractères sexuels secondaires, ainsi que de certains comportements complexes, voire coûteux ou dangereux, qui sont déployés au moment de la reproduction et qui font prendre pas mal de risques aux individus et finalement aux espèces. Bon, il y a tout un tas d'exemples classiques qui traînent dans la littérature de vulgarisation, les plumes du paradisier, les bois géants du cerf des tourbières, où, bon, une explication très caricaturale, c'est que les femelles préfèrent les mâles avec des grands andouliers, et elles préfèrent toujours les mâles avec des andouliers de plus en plus grands, et que, eh bien, même si, à la faveur d'un réchauffement climatique, la forêt se remet à pousser et que les cerfs ne peuvent plus courir, et quand même, les femelles préfèrent ceux avec les plus grands bois. Donc, eh bien, on arrive dans le mur. Voilà. Donc, non, j'insiste, parce que... on ne réalise pas à quel point les espèces font énormément de choses, non pas pour manger, boire, dormir, survivre aux aléas du climat, mais tout simplement pour que les gamètes se rencontrent, pour que les sexes se rencontrent, les œufs soient produits, etc. Donc pour boucler le cycle vital. Alors, j'y reviendrai plus tard. En dehors de l'évolution neutre qui se produit à cause des mutations qui arrivent régulièrement, dont je n'ai pas parlé, il y a des aspects non directement adaptatifs de l'évolution, des espèces qui sont tous plus ou moins liés au fait que la majorité des espèces étant des espèces sexuées, et elles transmettent leur matériel génétique par des voies alternatives, la voie mâle et la voie femelle. Elles sont donc cette chose-là, comme notamment la sélection sexuelle, est capable d'avoir des conséquences nombreuses sur la vitesse à laquelle les espèces nouvelles se forment, et en tout cas la vitesse à laquelle la cladogenèse se fait. Bon, vous verrez un peu plus tard pourquoi j'insiste tant sur cet aspect-là. Voilà. Donc, les espèces sont en permanence soumises à une relation avec l'extérieur, changements environnementaux, changements des compétiteurs, changements des parasites, et aussi à des pressions de sélection endogène, on peut dire, telles que la sélection sexuelle. Alors, c'est précisément dans l'analyse des changements génétiques occasionnés par ces pressions de sélection, qu'on peut trouver la cause de l'apparition ce qu'on appelle l'isolement reproductif, c'est-à-dire l'apparition de l'interstérilité entre deux groupes qui ne l'étaient pas avant, et ce qui, pour moi, constituera ce soir le point zéro de l'espèce. Alors, qu'il me soit ici permis de dire simplement que tout le monde s'accorde à considérer que lorsque deux groupes d'individus ne sont pas potentiellement interféconds, alors ils appartiennent à deux espèces différentes. Je le rappelle, la réciproque n'est pas forcément vraie, et il y a en effet tout un débat à propos de l'importance relative des différents mécanismes dans deux grands modes de spéciation. Bon, en gros, je caricature, spéciation géographique, où le moteur initial de la divergence est l'existence d'une barrière géographique, d'un isolement entre deux blocs qui vont finalement devenir des espèces, ou bien ce qu'il est convenu d'appeler une spéciation plus écologique, où l'amorce du processus de divergence est liée à des pressions de sélection contradictoires pour s'adapter à des environnements contrastés. Mais peu importe ce qui est convenu d'appeler le concept biologique de l'espèce, c'est-à-dire cette interstérilité potentielle, a, à mon avis, une valeur opérationnelle reconnue par tous. Et in fine, c'est bien l'apparition d'isolement reproductif qui pérennise la séparation des espèces et qui sera le fait marquant de la structuration de la biodiversité. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, comprendre pourquoi autant un génome, enfin un ensemble d'individus partagent des caractéristiques génétiques qui leur permettent de s'interféconder, et pourquoi à l'instant T plus d'étal T, on a deux ou plusieurs ensembles qui ne sont plus capables de cette chose-là. Alors, plutôt que de continuer à discourir de manière abstraite sur les effets et sur les causes, je vais vous emmener à travers l'histoire d'un genre animal que je connais bien, celui de la souris domestique, qui va permettre d'illustrer plusieurs types de situations ayant abouti à la création de nouvelles espèces et de discuter un petit peu de tout ça. Alors, je vous emmène d'abord dans une petite séquence temporelle. Alors, imaginez qu'il y a environ 2 millions d'années, il y avait une souris vivant dans le nord du sous-continent indien, dans des steppes de graminées, mais bien les graminées. Et puis, comme la nature a horreur du vide, eh bien, petit à petit, ces populations périphériques se sont déplacées, ont gagné, ont migré. Et notamment, il y a une branche qui est partie vers l'Europe via le Proche-Orient et une autre qui est partie vers l'Asie. Alors, qu'est-ce qui arrive à cette branche européenne ? Eh bien, assez vite, une fois qu'elle a été un peu autour de la Méditerranée, il y a eu des fragmentations qui se sont produites, notamment liées au fait qu'à partir du Pléistocène ancien, il a commencé à y avoir des oscillations climatiques, faisant qu'à certains moments, il y avait des zones arides. Donc voilà, ça fragmente en deux. Et voici un début d'isolement géographique entre les ancêtres de cette souris-là et les ancêtres de cette souris-là. Et puis, si on revient un peu plus tard, on s'aperçoit que la souris de droite, elle s'est distribuée de part et d'autre de la mer Noire, du Caucase, etc. Et on commence à voir les ancêtres de deux espèces, la souris à queue courte, là, et puis la souris des tumulus, dont je vous montre une photo, puisqu'il faut quand même bien... imaginez que se rappeler qu'il y a des animaux derrière tout ça. Et puis, donc, on voit petit à petit la divergence se produire à la faveur d'événements géographiques. Et puis, voici par exemple ce qui se passe au moment du maximum de la dernière glaciation, vers moins 50 000 ans. On a une contraction des aires de répartition avec les différentes populations qui se retrouvent isolées dans des refuges. Alors là, il y a deux refuges là pour cette espèce. Ici, il y a deux refuges et un troisième pour cette et un cinquième pour cette espèce. Donc voilà des périodes pendant lesquelles une divergence va se produire et quand les conditions vont redevenir meilleures, eh bien, on va avoir une expansion à nouveau. Dans le cadre de cette espèce là qui s'appelle Mus pretus, il n'y a pas eu de problème pour que les individus des deux refuges se remélangent. Par contre, dans le cadre de cette espèce-là, en fait, il y a maintenant deux sous-espèces, c'est-à-dire qu'on voit encore les traces génétiques de cet effet de refuge, et puis elles ont envahi l'Europe, et quand ces deux-là se rencontrent, ici, quelque part en Bulgarie, eh bien, elles ne s'hybrident plus, et elles forment de bonnes espèces. Alors, voici en 2 millions d'années une vague d'immigration qui a donné trois espèces et deux sous-espèces. Et puis, au même moment, arrivant de l'Inde, une nouvelle vague d'une autre souris, alors en partie qui aimait toujours autant les graminées, mais cette souris-là, elle a en plus la capacité, comme elle aimait bien les grains et les tas de grains, d'avoir adopté l'homme néolithique et d'être devenu commensal. Donc ces souris qui descendent des mêmes ancêtres que ceux-là, mais qui arrivent 2 millions d'années après, eh bien, ce sont des nouvelles espèces, et elles sont capables de se superposer aux précédentes, notamment à la faveur de leur commensalisme avec l'homme. Et qu'est-ce que ça donne à l'actuel ? Eh bien, à l'actuel, ça donne cette situation-là, où on voit les flèches bleues qui montrent la migration des souris, la sous-espèce qu'on appelle Domesticus, les flèches rouges, la sous-espèce Musculus, et puis chez Domesticus, les populations que j'ai mis en vert sont des populations assez intéressantes du point de vue de l'isolement reproducteur, parce qu'elles ont des chromosomes, elles ont des karyotypes complètement remaniés, c'est-à-dire que tous leurs chromosomes se sont collés deux à deux. Il y a exactement la même quantité d'informations génétiques, mais organisées d'une manière différente, de telle sorte qu'elles sont quasiment interstériles avec leurs voisines, interstériles entre elles. Ces phénomènes-là, d'évolution de ces populations vertes-là, se sont produits entre 1500 et 500 ans. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent, mode de spéciation dit stasipatrique, qui montre que très rapidement, on peut créer de l'interstérilité. Alors on crée de l'interstérilité, mais ça ne veut pas dire qu'on crée quelque chose de très différent. C'est des souris qui ressemblent quand même diablement aux autres. Mais voici, à l'autre bout de l'échelle, une façon de produire de l'interstérilité extrêmement rapidement sans produire rien du tout au point de vue de l'évolution morphologique et peut-être adaptative. Alors, où est-ce qu'on en est après? Bah tiens, voilà encore une souris. Mais justement, c'est celle-là. Ça l'empêche pas, son nombre de chromosomes réduit ne l'empêche pas de se comporter comme une vraie souris. Et puis, si on regarde ce qui se passe au niveau du monde entier, eh bien, cette histoire se répète un peu ailleurs avec d'autres sous-espèces qui sont parties du centre et qui ont irradié sur tout le continent. Alors, quelque chose d'intéressant, c'est que, pour revenir à mon propos sur l'isolement reproducteur et les choses non directement adaptatives, j'ai oublié ceci. Donc, toutes les espèces que je vous ai présentées, eh bien, si on en fait, comme pour l'ours, une phylogénie moléculaire, ça s'étage dans environ 1,5 million à 2 millions d'années. Et puis, un peu plus tôt, il y a d'autres espèces, et puis il y en aura encore d'autres. Donc, toute l'histoire que je vous ai racontée, donc la création de, au fond, 4 espèces différentes avec 6 sous-espèces, ça s'est produit en, disons, en gros, 2 millions d'années. Alors, maintenant, je reprends l'espèce principale, la souris domestique, et je représente sur cette carte les différentes lignées maternelles. Alors, effectivement, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le cytoplasme de nos cellules, il y a des mitochondries. Ces mitochondries sont transmises à la génération suivante uniquement par les ovules, donc uniquement par les femelles. Or, on est capable d'analyser l'ADN de ces mitochondries, et on est capable de le caractériser. Et donc, toutes ces sous-espèces de la souris domestique, on a pu caractériser leur lignée mitochondriale. Les voici représentés là-haut. Ça, c'est la lignée de l'espèce qui a divergé il y a 2 millions d'années. Et vous voyez cette distribution des lignées mitochondriales. Bon, très bien, ça correspond à peu près aux sous-espèces que je vous ai montrées. Maintenant, si on s'intéresse à quelque chose qui est transmis cette fois-ci uniquement par les mâles, eh bien, par exemple, le chromosome Y, en fait, c'est la seule chose, on va pouvoir contraster ce qui est transmis par les mâles, ce qui évolue à travers la lignée mâle, de ce qui évolue à travers la lignée femelle. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient deux types de chromosomes Y, un chromosome Y de type domesticus, en bleu, et un chromosome Y de type musculus, en rouge. Et quand on regarde leur phylogénie moléculaire, on s'aperçoit que ces deux types, ne faites pas attention à cette branche noire là, c'est une erreur, que ces deux types, bleu et rouge, sont beaucoup plus récents, voici ici 0,5 millions d'années à peu près, sont beaucoup plus récents que les types, les matrilignes transmis par les femelles. Donc il y a un hiatus. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que nécessairement certains chromosomes ont envahi des régions où ils n'étaient pas avant. C'est la seule façon d'interpréter ça, et c'était un phénomène récent, puisque il n'y a pas une concordance entre la distribution des lignées maternelles et des lignées paternelles. Alors, on explique ceci parce qu'il est convenu d'appeler un balayage sélectif, c'est-à-dire l'installation rapide d'un variant génétique dans la population au détriment des autres. Alors ça s'est produit de manière assez récente et pour ces deux types de chromosomes. Alors imaginons un instant qu'un chromosome Y porte un mutant qui soit avantageux à sa propre transmission. Alors, soit par exemple qu'il confère au mâle qui le porte un avantage décisif pour séduire les femelles, on peut toujours rêver. Soit tout simplement qu'il soit capable d'orienter la méiose mâle à son profit, c'est-à-dire faire en sorte que chez un mâle, les mâles sont XY, donc chez les mammifères, et normalement ils transmettent 50% de chromosome Y et 50% de chromosome X. Eh bien, si un chromosome Y est suffisamment fort pour créer une distorsion en sa faveur, c'est-à-dire faire en sorte que le mâle qui le porte transmette 60% de chromosome Y et seulement 40% de chromosome X, ce chromosome Y-là, il a gagné le jackpot. Il se peut aussi que, dans le cas de fécondation multiple d'une femelle par plusieurs mâles, ce qui arrive fréquemment chez les souris, les spermatozoïdes porteurs de notre chromosome Y tricheur peuvent éventuellement jouer des coudes et et bloquer les autres spermatozoïdes. Et effectivement, ces choses-là se produisent. On connaît des cas où certains spermatozoïdes sont capables d'inhiber la course à l'ovule d'autres spermatozoïdes. Donc ces choses-là se produisent et c'est probablement ce qui s'est passé chez nos souris pour au moins deux variants distincts qui se sont partagés le monde récemment. Alors, pour analyser cet exemple assez loin dans les détails, si par exemple on est dans le cas de figure, c'est très simpliste ce que je vais dire, mais ça permet de comprendre. Dans le cas de figure d'un chromosome Y un peu tricheur, qui, quand il est dans un mâle, lui dit « Tiens, bah, fais-moi du spermatozoïde Y, les spermatozoïdes X, ça ne m'intéresse pas. » Ça marche, il envahit la population et on se retrouve donc avec un excédent de mâles, puisque tous les mâles portant ce chromosome Y vont avoir plus de fils que de femelles, que de filles. Alors qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, il y a un excès de mâles dans la population et donc le sexe qui est le plus avantageux en termes de reproduction, c'est le sexe femelle, parce que le nombre de descendants moyens par femelle va devenir supérieur au nombre de descendants moyens par mâle, puisqu'il y aura beaucoup de mâles et qu'ils n'auront pas tous accès à la reproduction, en tout cas moins. Donc, à ce moment-là, tout nouveau variant génétique qui sera créé sur un autre chromosome que le Y et qui sera capable, lui, de restaurer, de faire plus de femelles dans ses propres descendants, sera avantagé, parce que c'est avantageux d'être une femelle quand il y a beaucoup de mâles. Enfin, ça, bon, on le savait, et réciproquement. Bon, alors, non, j'ai l'air de raconter des choses comme ça, microscopiques, et souvent, on a du mal à se convaincre que ça existe. Mais c'est bien ce qui se produit, c'est-à-dire que le sexe ratio est en permanence un équilibre dynamique entre la tendance du Y à vouloir faire des mâles et la tendance des autres chromosomes à vouloir restaurer des femelles. Et donc, quand il y a une mutation qui va dans un sens, il y aura une contre-mutation qui va se produire ailleurs, qui sera sélectionnée pour rétablir cet équilibre. Bon, c'est la loi de Fischer sur le sexe ratio. Alors, cette espèce de jeu de main chaude qui se produit, ben, il se produit effectivement, et on peut déceler dans le génome de la souris les traces de ce jeu-là. C'est en particulier vrai donc pour les chromosomes sexuels qui évoluent plus vite du fait qu'ils sont soumis à une espèce de guéguerre sur la façon dont ils sont transmis à la génération suivante. Alors, que c'est des conséquences réelles ? En voilà une autre illustration chez les souris toujours. Donc, voici à nouveau la carte d'Europe et vous voyez cette ligne pointillée noire qui correspond à une ligne où s'affrontent les domesticus et les musculus. Et là, les choses ne se passent pas très bien, c'est-à-dire que les gènes ne circulent pas librement. Il commence à y avoir des petits problèmes. Et quand on regarde en détail ce qui se passe, là, je vous ai mis, voici ici, à gauche, on est 100% domesticus, à droite, on est 100% musculus, et voici un transect géographique d'environ 100 km, quelque part au Danemark. Et pour un gène standard, on s'aperçoit que sur environ une cinquantaine de kilomètres, on a un mélange plus ou moins harmonieux des gènes des deux sous-espèces, ce qui fait qu'on a vraiment des hybrides. C'est représenté par ce nuage de points. Par contre, quand on regarde le chromosome Y, on s'aperçoit que la transition est beaucoup plus abrupte et on n'a quasiment aucune population avec les deux types de chromosomes présents. Si je vous avais présenté un graphe avec le chromosome X, ça serait encore la même image. Donc on a bien la preuve ici que les chromosomes Y, vous vous souvenez, c'est le bleu et le rouge que je vous ai montré dans une des illustrations, et également les chromosomes X, évoluent plus vite et ils sont plus rapidement mutuellement incompatibles que les autres systèmes génétiques. Alors, ça s'appelle la loi de Holden, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais le message que je veux faire passer, c'est qu'ils évoluent plus vite parce qu'il y a des phénomènes internes de coévolution qui n'ont rien de très adaptatif. Hein. Être mieux transmis que le voisin, ça ne veut pas dire qu'on sera meilleur dans ses descendants pour ce qui est de chasser, de manger ou de survivre. Ça veut dire simplement qu'on est le plus fort et qu'on est capable de jouer des coudes. Donc ça, c'est la sélection sexuelle. Et qu'une des conséquences, c'est qu'on va évoluer très vite et que ça va accélérer les processus d'incompatibilité génétique. Alors, vous allez devoir me croire sur parole parce que le temps passe et c'est difficile de montrer des exemples, mais il y a énormément de systèmes génétiques qui évoluent de cette sorte dans le génome, par exemple, d'un mammifère ou d'une espèce avec un gros génome. Et ces éléments qui sont en conflit entre eux, il y en a beaucoup, donc on a vu un peu la guéguerre entre le Y et le X, entre le Y et les autres chromosomes. Eh bien, il existe de nombreux autres éléments possibles de conflit d'intérêts. Par exemple, il existe un conflit entre les gènes qui sont transmis par la mère et ceux qui sont transmis par le père, qui s'expriment au niveau du placenta. Alors, en effet, les gènes paternels, eux, ils ont intérêt à réclamer du placenta le maximum d'énergie pour leurs propres descendants. Et puis, ceux de la mère, au contraire, ils peuvent avoir intérêt à répartir l'énergie qu'ils donnent entre les différents individus de la portée, voire entre les différentes portées. Donc, la mère, elle peut avoir intérêt à survivre, c'est clair, ou au moins être en bonne forme pour faire plusieurs portées. Si un mâle est passé par là et qu'il a juste fécondé une femelle, lui peut avoir intérêt à récupérer au maximum la mise avec un gros fœtus qui va pomper beaucoup d'énergie au placenta. Donc, dit comme ça, on n'arrive pas à le croire. Mais ça se produit bien. Et il y a effectivement une guéguerre entre les gènes de la mère et ceux du fœtus pour l'allocation des ressources au placenta. Et là encore, ce sont un coup j'évolue et je fais un peu mieux, un coup j'ai une contre-mutation qui va corriger cet effet. Et à l'intérieur de chaque espèce, il y a à nouveau ce jeu de main chaude qui se produit et notamment qui crée les phénomènes d'empreinte génétique qui est bien connu des gens qui font de la génétique du développement chez les mammifères. Alors, chez les souris, on a des preuves tangible que cette guéguerre de ce conflit fœto-placentaire, il se produit à l'intérieur des différentes espèces, parce que quand on recroise des espèces proches, on obtient des hybrides, et il arrive assez souvent que les placentas soient soit hypertrophiés, soit hypotrophiés, ce qui est bien une preuve que les gènes de l'une et de l'autre espèce ont évolué depuis l'ancêtre commun en tirant la couverture à eux, un coup je te fais plus de placenta, un coup je t'en fais moins. Donc, je sais bien que ce n'est pas facile de raconter tout ça, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur des génomes qui subissent ce genre de petite guerre. Alors, notamment tout ce qui est convenu d'appeler les gènes égoïstes, je ne rentre pas dans les détails, des éléments transposables, des parasites intragénomiques, des chromosomes surnuméraires, en fait, plein d'éléments qui sont capables de jouer perso en augmentant leur prévalence à la génération suivante pour des raisons qui sont encore une fois pas directement adaptatives, mais qui reflètent simplement la capacité de ces éléments à se dupliquer ou à se transmettre mieux que les autres. Alors, on pourrait faire tout un bestiaire de ces éléments. Alors, donc les génomes des espèces divergent de manière inexorable, et le message que je voudrais faire passer est que ce n'est pas tant à cause des caractéristiques liées à l'évolution phénotypique et aux adaptations différentielles des espèces à leur milieu que ces espèces deviennent in fine des entités génétiquement séparées les unes des autres, mais c'est bien plus rapidement et bien plus tôt à cause de cette dynamique interne que je viens du génome que je viens de décrire très rapidement. Alors là, mes collègues travaillant sur les espèces à petit génome me casseraient du sucre sur le dos en disant « oui, mais tu nous racontes que des cas particuliers ». Eh bien, c'est peut-être vrai que c'est dans les gros génomes qu'on peut avoir beaucoup de choses un peu bizarres, des chromosomes qui servent à rien, des distorteurs de ségrégation, des éléments transposables, etc. Et que dans des tout petits génomes, de tout petites espèces qui ont des taux de reproduction extrêmement rapides, il y a quasiment la place pour rien de tout ça. Et moi, je pense que ces mécanismes existent toujours, c'est simplement une question d'échelle. Et il y a des forces endogènes non adaptatives qui font que les génomes évoluent finalement assez vite. Alors, pour reprendre l'exemple de la limule, il est clair qu'un animal actuel ne serait probablement plus interfécond avec un animal d'il y a quelques millions d'années en arrière, probablement à cause du fait que son génome à lui aussi va avoir subi ces remaniements incessants liés à ces conflits génomiques. Alors, pour conclure et pour en revenir aux questions posées au début, et pour faire mieux qu'une simple réponse de Normand, on peut tenter de resituer tout ceci maintenant dans un cadre temporel. Alors voilà ce que je disais. Très bien. Dans une étude récente parue dans la revue Science, Kirchner et Weil ont étudié les corrélations qu'il y avait entre les extinctions des espèces et les apparitions. Et quand ils font cette étude au niveau des genres ou au niveau des familles, ils s'aperçoivent qu'en gros, la même diversité phylétique en termes de genre ou de famille réapparaît au bout d'un laps de temps d'environ 10 millions d'années. C'est-à-dire que sur tout le phanérozoïque, sur les 600 millions d'années de la vie macroscopique à la surface de la Terre, quand on fait ces corrélations, on trouve ces très belles courbes, c'est assez surprenant. C'est vrai au moment des périodes d'extinction, mais c'est vrai tout le temps, qui montre que si vous avez une baisse de diversité, eh bien, en gros, il faudra attendre 10 millions d'années pour qu'elle soit à peu près compensé par une création de phylum de niveau équivalent. Alors, comment est-ce que ceci corrèle avec... Alors ça, c'est simplement les genres et les familles. Comment est-ce que ceci corrèle avec les espèces, c'est-à-dire à la vitesse de cladogenèse dans les espèces? Donc, si on reprend ce diagramme que je vous ai montré au début, donc 500 espèces vivantes en 20 millions d'années, bon, ça fait... un taux, chez ces muridés, donc, ça fait un taux de spéciation moyen de 35% par million d'années. Donc, c'est en gros qu'une espèce donne deux espèces filles en 3 millions d'années. Bon, si maintenant, on regarde chez les souris d'Europe, il y a eu 4 espèces et 6 sous-espèces en 2 millions d'années, donc ça colle en gros avec ce qui est marqué là. Et si je vous avais présenté l'ensemble du genre Mus, on aurait vu environ une quinzaine d'espèces vivantes en 5 à 7 millions d'années pour tout le genre. Donc, en gros, ces chiffres, les chiffres de Kirchner sur le temps, le décalage entre extinction et réapparition, collent en gros avec ce qu'on voit sur la vitesse de cladogénèse chez les rongeurs en tout cas. Donc, la diversité du niveau supérieur à celui de l'espèce étant restaurée en 10 millions d'années. Alors, donc, pour conclure, je dirais que l'apparition de la biodiversité que je qualifierais de structurante, c'est-à-dire celle qui allie anagénèse et cladogénèse dans un juste rapport, parce que faire tout un tas d'espèces qui sont exactement identiques les unes aux autres, souvent, ces espèces n'ont pas beaucoup d'avenir. Enfin, c'est difficile de dire. Il y a des espèces jumelles, il y a des choses comme ça. Il y a des formes donc un peu vicariantes qui n'auront pas toutes d'avenir évolutif. Donc, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est cet équilibre entre anagénèse et cladogénèse. Et donc, il semble que cela se produise avec une régulière lenteur et au moment de la sixième grande crise d'extinction que nous sommes en train de vivre actuellement par notre faute même, nous avons de sérieuses raisons de nous inquiéter. Je vous donne rendez-vous dans 10 millions d'années pour voir si ma théorie était valable.
Je voulais vous demander, puisqu'il y a des espèces qui disparaissent, semble-t-il, en permanence, il doit y en avoir qui apparaissent assez régulièrement.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Est-ce qu'on a assisté à une apparition d'espèces ? Est-ce qu'on connaît des espèces qui sont nées ces dernières années, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans ? Est-ce qu'on peut savoir que c'est possible, mais qu'on ne les a pas vues ?
Écoutez, voilà, c'est encore le genre de question sémantique. Comme je l'ai dit, on voit très bien quand une espèce disparaît. Mais on ne sait dire qu'on a de bonnes espèces que, chez les rongeurs, moi, je vais dire, il faut 500 000 ans ou 1 million d'années pour que je sois sûr que j'ai de bonnes espèces parce qu'elles se rencontrent, elles ne se croisent pas, ou les hybrides ont des problèmes, etc. Donc, il y a sûrement en permanence des processus qui sont des germes de différenciation en train de se produire. Si nous les analysons, nous, maintenant, on ne voit pas toutes les caractéristiques qu'auront ces futures espèces dans 500 000 ans, mais ce n'est que quelque chose de potentiel. Par exemple, les races de souris avec les chromosomes fusionnés, si le futur donne à l'une d'entre elles la possibilité de, coloniser un continent vierge, eh bien, certainement que ça fera une espèce complètement différente des autres dans un million d'années ou deux. Donc, ma réponse, c'est que... certains écologistes, dès qu'ils voient deux populations qui se séparent sur des bases d'adaptation ou de comportement, ils disent « Oh, ça y est, on a deux bonnes espèces ». Et effectivement, peut-être que l'histoire ultérieure va faire que ces choses-là vont devenir des bonnes espèces. Moi, je suis généticien et je considère que si on change les cartes et qu'on boulègue un peu l'environnement, il se peut que les débuts d'adaptation différentes qui étaient là ne soit pas suffisant pour les empêcher de se remélanger, et j'aurais tendance à dire ce ne sont pas des bonnes espèces. Donc votre question, au fond, elle reprend exactement la même question de la question précédente, c'est que on ne sait pas dire dans la phase statu nascendi d'une espèce, on ne sait pas mettre de nom, mais oui, il y a des germes de spéciation en permanence. Voilà. Oui, c'est vrai, on met des truites dans un lac. Au bout de 50 ans, il y a des populations qui sont adaptées à la vie dans les petits ruisseaux qui aboutissent au lac et d'autres populations qui s'adaptent à vivre au fond du lac. Et elles se croisent très peu. Donc, si par hasard, ce système de lacs et de ruisseaux a un avenir en termes biogéographiques, c'est-à-dire si le lac devient très grand et si les ruisseaux se connectent à d'autres, peut-être qu'on aura deux espèces, mais peut-être aussi qu'on n'aura rien du tout parce que ce lac sera entièrement gelé dans 25 000 ans et que tout le monde va disparaître.
Oui, n'y a-t-il pas une contradiction logique entre la définition biologique de l'espèce comme isolat reproductif et la définition, appelons-la évolutive, qui consiste à dire qu'une espèce dérive d'une autre espèce. Mmh. D'autre part, est-ce que ce que vous nous avez dit à propos des souris, est-ce que vous affirmeriez que c'est encore valable pour les amibes, les paramécies, les fongies, voire même les crustacés ? D'autant que la notion d'espèce, il y en a, à ma connaissance, 25 ou 26 conceptuellement différentes,
oui,
et que l'espèce de Linné, l'espèce de Darwin et la vôtre n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
Il y en a beaucoup qui considèrent que l'espèce de Linné n'est pas acquise. Vous avez remarqué que j'étais très prudent et que, en fait, j'ai employé le mot d'espèce parce qu'il faut bien l'employer et que moi, je me suis cantonné à qu'est-ce qui fait que, non pas le germe initial de la cladogenèse, mais qu'est-ce qui fait qu'elle se traduit de manière ultime un jour dans l'isolement reproductif. Je n'ai parlé en fait que de ça. Et le reste, c'est passionnant, mais c'est l'objet... ça serait l'objet d'une autre conférence où on va prendre phylum par phylum pour voir si dans tel phylum on a plutôt des modalités d'initiation des processus de divergence qui collent avec le concept numéro 23 bis de l'espèce. Je dis ça, ça n'est pas... j'ai absolument rien contre, c'est même une nécessité d'essayer de catégoriser les phénomènes. Mais je ne voulais pas en parler parce que je ne pouvais pas passer la conférence là-dessus entièrement. Et donc je pense que quand même, il y a un moment où tout le monde s'accorde à dire qu'à partir du moment où vous avez du matériel qui n'est pas qui est quand même interstérile, et qu'il ne faut pas faire des choses complètement abracadabrantes pour obtenir les croisements, on est dans le cadre de ce qui est reconnu comme des bonnes espèces. Mais oui, je suis d'accord avec vous que ce n'est pas pareil chez les souris que chez les paramécies. Chez beaucoup d'organismes, il y a des choses encore plus compliquées que ce que j'ai raconté avec des micronoyaux, des macronoyaux, des algues symbiotiques, des chloroplastes, des mitochondries, des facteurs sigma, des virus cytoplasmiques, des choses comme ça. Donc toute espèce de choses qui peuvent produire... ces petits phénomènes bizarres de coévolution interne dont je parlais et qui sont capables d'isoler très rapidement un groupe de lignées d'un autre. Oui, c'est vrai. Est-ce que ces choses-là ont des avenirs évolutifs? J'en sais rien. Quand on regarde les bactéries, on s'aperçoit que même des bactéries assez divergentes échangent du matériel et quand même, on voit quand même des clades. Donc, moi, je prends le risque de dire que je suis un généticien de vertébrés et que finalement ça me simplifie la vie et que ça me permet de parler, parce que sinon on n'ouvre plus le bec, quoi, hein, parce qu'on trouve toujours tout et son contraire.
Il y a un point que j'aimerais que vous précisiez, si c'est possible. Personnellement, je me pose toujours la question, à la naissance d'une espèce, quels que soient les mécanismes visibles, invisibles, etc., d'une spéciation, est-ce le fait d'un individu mutant, d'un couple mutant ou d'une population mutante? Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on peut rien en dire? Deuxième chose, dans la spéciation, est-ce qu'il y a des cas où toute une espèce se transforme progressivement en une autre, différente? Et bien sûr, une espèce peut donner naissance à une espèce dérivée, elle-même l'ancêtre continuant. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, en gros?
Eh ben, d'abord, le premier élément de votre question... je pense qu'on peut trouver tous les exemples que vous avez cités. On peut. C'est ça qui est terrible, c'est que si on cherche bien, il y a eu tellement d'espèces qui ont existé à la surface de la Terre, il en reste encore un certain nombre, pas autant qu'on voudrait, mais il en reste encore beaucoup. Et ces espèces ont des niveaux d'organisation et de complexité différents et qui font qu'effectivement, dans certains cas, un simple mutant dans une espèce majoritairement clonale peut éventuellement initier un phénomène de spéciation parce que d'un seul coup, il y aura une propriété qui va à la fois isoler ce mutant des autres et lui conférer une adaptation nouvelle. Ça, c'est clair. Et puis, vous avez aussi des choses qui se produisent selon un schéma complètement différent où c'est de manière concertée et en moyenne dans la population. Vous avez par exemple, pour ce qui est de l'acquisition de l'isolement reproducteur, une famille d'éléments transposables qui s'est mise à bouger et qui est en train d'impacter tous les chromosomes dans un groupe de populations séparées d'autres. Et quand ils se retrouvent après 500 000 ans, les chromosomes n'arrivent plus à se parler à la méiose parce qu'ils sont impactés de manière différentielle. Donc là, vous avez un processus cohésif qui s'est produit et qui a fait que cette divergence a été brassée progressivement, etc. Donc moi, je suis très, très gêné pour vous répondre parce qu'on va trouver tous les exemples. Bon, après, le problème de l'espèce dans le temps, c'est-à-dire... Pendant combien de temps on est la même espèce? Ça, moi, on ne peut pas y répondre. C'est trop dur comme question. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a un phylum, il se sépare en deux, en trois, en quatre. Tout le monde est descendant de l'ancêtre. On sait très bien qu'il y a un moment où... si on raccourcissait le temps, on deviendrait génétiquement incompatible avec ses ancêtres. C'est une question extrêmement... vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas... on ne peut pas. Donc, on ne sait que reconnaître des choses à un moment donné, dans le temps, et dans certains cas, on est sûr qu'elles n'échangent pas de matériel génétique. Alors, ça nous satisfait. Pour le reste, c'est toujours un peu des réponses un peu partielles, un peu des cas d'espèce, des so-so stories, comme disent les Américains, justement. Et j'en suis désolé, mais c'est la réalité qui est comme ça. Ce qu'on est sûr, par contre, c'est qu'il y a bien des espèces qui apparaissent, quelle que soit la définition qu'on en prenne.
Oui, c'est une question rapide et pratique qui concerne en fait beaucoup des conférences. Est-ce qu'à la fin, on pourrait nous donner une référence d'un ouvrage, si ça existe, de préférence en français, qui permette de poursuivre ou de se remémorer un peu l'excellente conférence qu'on vient d'avoir?
Alors, d'abord, pour le cas particulier de la conférence d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y aurait pas un seul ouvrage, parce que, comme la question de monsieur l'a bien montré, les gens sont capables de s'étriper pendant toute une carrière sur la notion d'espèce. Hein, ça, c'est clair, c'est fertile et fécond, ce genre de choses. Donc, en fait, des bouquins de synthèse qui fassent l'unanimité, j'en connais pas, il faut en lire plusieurs. Et puis, je crois que Yves Michaud a répondu avant la conférence à votre remarque. Ces choses-là seront un jour synthétisées dans des publications, si vous voulez revoir ces conférences. Je suis incapable de vous donner une seule réponse. Je pense que les livres qui traitent de l'espèce au cours du temps, enfin, le problème de l'espèce en paléontologie, ne sont pas les mêmes que ceux qui parlent de l'espèce actuelle vue sous l'angle écologique ou sous l'angle génétique. Donc, moi, je suis incapable de vous donner cette réponse.
Vous avez dit qu'à un moment qu'une espèce peut être très favorisée du point de vue de la transmission et pas favorisé du point de vue de l'adaptation. Est-ce que ces deux avantages, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver paramètre qui tienne compte des deux avantages? C'est-à-dire, il est clair qu'une espèce qui serait très adaptée, mais qui ne transmettrait pas, finirait. Et inversement, une espèce qui transmettrait très bien, mais qui serait très mal adaptée,
Ça n'existe pas, parce que les espèces qui transmettent très bien, il faut qu'elles soient déjà bien adaptées pour fabriquer tous les descendants qu'elles font. Donc la transmission, c'était différentiel. Je parlais, par exemple, de la transmission d'un variant particulier n'apportant rien comme contribution directe à la valeur adaptative des individus en termes de ce qu'ils savent faire ou comment ils survivent. Je prenais le cas de ce chromosome Y tricheur. Donc lui, c'est un avantage de transmission sans que ça soit un avantage d'adaptation. C'était dans ce cadre-là que je disais ça. Maintenant, des espèces bien adaptées, ça veut aussi dire qu'elles sont suffisamment fertiles pour pouvoir être là à la génération d'après. Mais effectivement, on connaît des cas d'extinction d'espèces où les individus sont très très bien dans leur milieu, ça marche parfaitement. Ils grandissent, ils survivent, ils résistent au feu, aux intempéries, à tout ce que vous voulez, mais simplement, par exemple, ils font des graines, ils sont fertiles, ils sont interféconds, c'est le cas d'une petite plante qu'on appelle la centaurée de la clape, par exemple, mais les graines s'envolent et elles tombent toujours loin du tout petit massif rocheux où la plante est très bien adaptée. Alors, voilà un exemple qui va dans le sens de ce que vous dites. Cette espèce va s'éteindre, non pas parce que les individus sont incapables de survivre et de se reproduire, mais parce qu'ils sont incapables de faire en sorte que leurs descendants soient au bon endroit. C'est triste, mais ça illustre ce que vous dites.
Pour les fossiles vivants, justement, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont devenus fossiles, ils ont été fossiles? Pourquoi ils sont fossiles vivants? Est-ce que c'est une question chez eux de bonne transmission ou de bonne adaptation à leur milieu?
Moi, j'en sais rien. J'ai employé le terme fossile vivant. Maintenant, comme ça, parce que c'est un terme grand public, on l'utilise plus du tout. Les spécialistes l'utilisent plus du tout parce que, en fait, bon, ben, il se trouve qu'il y a une certaine conservation morphologique, mais pour tout le reste, c'est-à-dire leur adaptation, leur physiologie, leur immunité, n'importe quoi, ils n'ont peut-être absolument plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Hein, bien souvent, ils ne vivent plus dans les mêmes milieux que ceux où vivaient certains de leurs ancêtres. Donc, moi, j'ai pas de réponse sur le pourquoi de certaines espèces ont une stase morphologique apparente et pas d'autres. Ce que je pense aussi, c'est que même si on voulait faire un test statistique, si on prend 10 millions d'espèces ayant existé depuis le Cambrien, eh bien, si on a des fossiles de ces 10 millions, on va bien en trouver certaines qui vont avoir pas beaucoup évolué, ne serait-ce que par hasard, et d'autres qui ont évolué beaucoup. Et on dira, celles qui n'ont pas beaucoup évolué, on les appelle des fossiles vivants. Je ne trouve pas ça satisfaisant. Je ne pense pas qu'il y ait de raison vraiment particulière. C'est une curiosité. Je n'ai pas de réponse à vous donner.
François Bonhomme, merci beaucoup.